et le journal vous est présenté par Adrien Taufolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Donald Trump, en mauvaise posture à quelques mois des présidentielles, dénonce un possible trucage du scrutin et appelle à un report des élections. Solution inimaginable pour les démocrates, contestée par les républicains. C'est la stratégie d'un président mis à mal par la récession économique qui touche les États-Unis. Explication de Loïc Loury depuis New York.
Célébration de l'Aïd aujourd'hui pour les musulmans du monde entier. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, chaque mosquée va prendre des mesures de précaution et de distanciation physique. Détail des mesures signées Valentin Dunat.
Et puis alors qu'Air France KLM annonce près de 2,5 milliards d'euros de pertes au second trimestre, les salariés de Hop, la filiale régionale, doivent rencontrer la direction aujourd'hui au sujet du plan social qui va toucher 1000 emplois. C'est la réaction d'un président qui se sait menacé. Donald Trump, hier soir, a de nouveau brandi le spectre des fraudes massives lors de la présidentielle de novembre. Et le président américain, qui pour éviter de voir une élection truquée, ce sont ses mots, suggère sans ménagement un report du scrutin. Or, le patron de la Maison-Blanche, il le sait, ne dispose pas d'un tel pouvoir. Reste à Donald Trump à la traîne dans les sondages derrière son rival Joe Biden d'agiter l'argument de la fraude avec le vote par correspondance, pour jeter le discrédit sur un scrutin dont le résultat semble avoir de grandes chances de lui être défavorable. À New York, les précisions de Loïc Loury.
En mai dernier, c'est un message trompeur du président sur le vote par courrier nécessairement frauduleux qui avait été signalé pour la première fois par Twitter. Depuis, la petite musique s'est poursuivie à Washington jusqu'à hier soir. On parle d'envoyer des centaines de millions de bulletins, des centaines de millions. Où vont-ils? À qui sont-ils envoyés? C'est juste du bon sens, rien à voir avec la politique et les démocrates le savent. Et si le Covid en effet devrait pousser certains États à étendre le vote par courrier, le dispositif n'a rien de nouveau et ses risques de fraude massive n'ont jamais été observés. L'argument, malgré tout, a donc poussé hier Donald Trump à suggérer un report de la présidentielle. Consternation jusque dans son camp, Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat. Jamais dans notre histoire, pendant les guerres, les dépressions, la guerre civile, même une élection ne s'est pas tenue à la date qui avait été arrêtée. Et nous trouverons un moyen d'organiser cette élection le 3 novembre. Le président, quoi qu'il en soit, n'a pas la main sur un tel report. Son message ressemble donc à un aveu de faiblesse face aux mauvais sondages ou aux chiffres calamiteux de l'économie, mais un message dangereux envoyé à sa base, cette idée que l'élection du 3 novembre, s'il n'est pas réélu, aura forcément été truquée.
Et le président américain n'est pas aidé par la crise du coronavirus. La bonne santé de l'économie, c'est son principal argument de campagne. Malheureusement pour lui, les États-Unis sont entrés hier en récession avec une chute de près de 33% du PIB au second trimestre. Deuxième trimestre de suite de dégringolade, conséquence du confinement. Un peu plus au nord, Justin Trudeau, hier, a dû affronter le tir nourri des députés réunis au sein du comité des finances. Sa troisième enquête du commissariat à l'éthique. Il était entendu sur ses liens avec une organisation caritative qui a obtenu un contrat public sans avoir à concourir. Un motif suffisant, selon plusieurs des partis d'opposition, pour réclamer son départ. Et pour l'instant, les élus ne semblent pas avoir été convaincus par les réponses du dirigeant canadien. Explication signée Pascal Guéricola.
Pas de grandes révélations durant la comparution du Premier ministre canadien devant le comité parlementaire des finances, mais souvent un dialogue de sourds entre le dirigeant canadien et les députés d'opposition. Justin Trudeau maintient sa version des faits. Sa mère et son frère ont eu beau recevoir des dizaines de milliers d'euros pour avoir participé à des événements de l'organisme UNI, lui-même n'a eu aucune influence sur le choix de cette organisation.
L'organisme UNI n'a pas reçu de traitement de faveur, ni de moi, ni de qui que ce soit d'autre. La fonction publique a recommandé l'organisme UNI et je n'ai absolument rien fait pour influencer cette recommandation.
Selon le Premier ministre canadien, l'organisme UNI disposait de tous les outils pour mettre en place rapidement un programme public de bourse pour les étudiants. Voilà pourquoi les fonctionnaires l'ont choisi sans aucun concours. Justin Trudeau reconnaît que les apparences jouent contre lui et qu'il aurait peut-être dû se retirer de la pièce quand son équipe discutait du nid. Une attitude équivoque que le chef du Bloc québécois a tournée en dérision.
Écoutez, j'y ai pensé à un moment donné qu'il y avait peut-être quelque chose de pas correct. Le petit ange de l'éthique qui parfois vient flotter au-dessus de l'épaule, il a repoussé le petit ange de l'éthique avec son réflexe monarchique habituel.
Le Bloc québécois ainsi que le Parti conservateur continuent à réclamer la démission de Justin Trudeau. Reste à savoir si les partis d'opposition veulent vraiment d'une élection cet automne.
En Italie, le Sénat a voté hier soir la levée de l'immunité parlementaire de Matteo Salvini, le chef de la Ligue d'extrême droite. Une telle décision permet le renvoi de l'ancien ministre de l'Intérieur devant la justice dans une affaire de migrants bloqués en mer alors qu'il était en responsabilité à Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
Dans toute bonne carrière politique en Italie, il faut évidemment passer devant les électeurs, mais aussi souvent devant les magistrats. Matteo Salvini, qui a détrôné le roi en la matière, Silvio Berlusconi, en tant que leader de la droite, peut maintenant le concurrencer également sur le terrain judiciaire. Le Sénat le renvoie en procès pour séquestration de personnes aggravées. En août 2019, il bloquait pendant plusieurs jours le navire humanitaire Open Arms devant l'île de Lampedusa avec à son bord 150 migrants. Cela sera le deuxième procès pour le patron de la Ligue. Le 3 octobre prochain, un autre procès s'ouvrira pour des faits identiques. En juillet 2019, il avait refusé le débarquement de 131 migrants sauvés dans le canal de Sicile et recueillis cette fois à bord d'un navire militaire. Matteo Salvini, qui encourt une peine de prison de 15 ans et une peine d'inéligibilité entre 6 et 8 ans, se présente déjà comme la victime d'un acharnement judiciaire orchestré par ses rivaux politiques. Défendre l'Italie n'est pas un crime, j'en suis fier, je le referai et je le ferai encore, s'est-il exclamé devant les sénateurs.
France Culture, 7h06, Adrien Toffolé, c'est la plus importante des fêtes religieuses pour les musulmans.
L'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, la grande fête, des milliers de personnes vont se réunir ce matin dans des conditions très particulières. L'épidémie, on se souvient, avait explosé après un rassemblement religieux à Mulhouse la dernière semaine de février. Alors pas question de reproduire les mêmes erreurs. Le Conseil français du culte musulman a donc fait un rappel des mesures de vigilance et de protection dans cette période de rassemblement à haut risque, mais dans chaque mosquée, on est libre ensuite d'adapter ses recommandations, Valentin Dunat.
La plupart du temps, la prière du matin sera abrégée, 20 minutes tout au plus. Chaque fidèle devra porter un masque, ramener son tapis et faire ses ablutions chez soi. Ça, c'est ce qui est commun à toutes les mosquées en France. Ce qui diffère, c'est la manière d'organiser ce rassemblement. Certaines feront plusieurs offices pour éviter que les fidèles ne se croisent. D'autres ont réservé un stade, des terrains de sport. Les mosquées propriétaires d'un jardin ou d'un parking peuvent également gagner de la place en organisant les prières à l'extérieur. Ensuite, il y a le rituel de l'abattage du mouton. Les associations musulmanes se sont organisées pour éviter les attroupements devant les abattoirs. Dans la plupart des cas, il y aura donc des livraisons effectuées après la prière ou le lendemain. Le Conseil français du culte musulman rappelle que parce que ces abattoirs sont des potentiels clusters, le sacrifice par délégation doit être encouragé.
En France, le nombre de patients malades en réanimation a augmenté pour la première fois depuis début avril. Rien d'alarmant selon le bilan de la Direction Générale de la Santé. Un patient de plus seulement. Pendant ce temps, la liste des villes à rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public s'allonge de jour en jour. Le Mont-Saint-Michel, Saint-Brieuc, Concarneau, Saint-Malo, le Touquet et désormais Biarritz et Bayonne. La Covid et ses conséquences sur l'économie, on en a parlé en début de ce journal avec les États-Unis en récession. En France, on attend les chiffres de la croissance au second trimestre publiés ce matin par l'INSEE. On sait le secteur des transports très touché. Hier soir, Air France KLM a annoncé 2,6 milliards d'euros de pertes au second trimestre. La route vers un rétablissement sera longue et semée d'incertitudes, précise Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM. L'avenir du groupe, d'ailleurs, passera par des coupes dans ses effectifs. 7500 postes à Air France d'ici 2022, dont plus de 1000 au sein de HOP, la filiale régionale. Hier, près de 300 salariés de HOP en colère, venus de plusieurs sites français comme Lille ou Morlaix, se sont réunis devant le siège à Nantes pour protester contre ces licenciements. Une réunion extraordinaire doit se tenir aujourd'hui entre la direction et les salariés. Joël Rondel du comité social et économique espère obtenir des réponses de la part de la direction.
On attend des éclaircissements sur des choses qu'on ne comprend pas forcément, sur les chiffres, sur les suppressions d'emplois dans certains services. Moi, j'attends qu'on m'explique un peu comment ils ont programmé toutes ces suppressions d'emplois, parce que je comprends pas tout aujourd'hui.
Nos revendications aujourd'hui, c'est donc la mise en place du chômage partiel de longue durée pour préserver l'emploi et de dire à la direction de ne pas aller trop vite, parce que ils veulent arrêter des lignes, ils veulent supprimer des emplois, ils veulent faire partir déjà des salariés au début d'année prochaine, et alors que le trafic repart pas aussi vite que que tout le monde avait pensé. La solution qui aurait dû être prise en compte au départ, et c'était une demande de la CGT Air France et Hop, c'était la renationalisation de la compagnie pour préserver l'emploi et préserver bien sûr nos lignes. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle les politiques pour qu'ils interviennent au niveau d'Air France et qu'il n'y ait pas de licenciement sec.
Joël Rondel du comité social et économique de Hop. Le temps d'aujourd'hui sera encore très chaud. 13 départements en vigilance orange canicule, de la Côte d'Or à l'Ardèche et tout le long de la frontière suisse jusqu'en Savoie. 19 départements, les mêmes, plus tous ceux sur une diagonale qui part du Pas-de-Calais, sont placés en vigilance orange pour risque d'orage. Les températures minimales seront comprises entre 20 et 31 degrés, les maximales entre 20 et 40 degrés.